Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Seigneur, ces chants, c'est notre prière ce matin.
Que
tu nous amènes dans tes profondeurs. Et que de gloire en gloire avec toi nous allions. Merci pour cette journée particulière et spéciale. Merci parce que nous voulons nous associer avec l'agriculteur qui rend des actions de grâce à cause de sa semence qui est renforcée en terre.
Et
nous voulons avec Paul déclarer que tu fais concourir toutes choses pour notre bien.
Bénis
ta parole à cette heure. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Et j'aimerais que nous puissions lire trois portions des Écritures ce matin. Nous lisons d'abord 2 Samuel au chapitre
6.
Et là nous lisons du verset 8 jusqu'au verset 11. Allons-y carrément jusqu'au verset 12, je préfère. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza.
Daniel, David a tombé car qui pouvait ensemble abattre qui Uzza.
D'un tel châtiment fort.
Dans Kanda Oyo Makasi.
Et c'est lieu où Dieu frappa Uzza fut appelé jusqu'à ce jour Pérez Uzza. David eut peur de l'Éternel dans ces jours-là.
Dawidi a bangi nzambe mokolo wana.
Et il dit.
Péalobi.
Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi?
Il ne voulut
pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Il a fait conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'arche de l'Éternel resta trois mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath.
Obed-Edom de Gath.
Et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. D'autres versions disent tout ce qui lui appartenait. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom, ainsi que tout ce qui est à lui. J'aime la suite, à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route.
Et
il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David.
Cité à David.
Et c'est là au milieu des réjouissances. Nous relisons une portion de la parabole de la fois dernière, Luc chapitre
18.
Verset 6 et jusqu'au verset
7.
Luc 18, 6 à 7.
Luc 18, 6 à 7.
Le Seigneur ajouta.
Kolo abakisaki.
Entendez ce que dit le juge inique.
Boyoka oyo mosambi simabe alobi.
Et Dieu alors ne fera-t-il pas justice à ses élus?
Pe Yahweh akosala bosembo na ba ponamina ete.
Qui crie à lui jour et nuit.
Oyo ba bele la ke butu moy.
Et va-t-il tarder à leur égard?
Yako oume la pona ko sunga bango.
Nous terminons avec Galates chapitre 6 au verset 9.
Toko suki sana Galates 6, 9.
Un passage sûrement connu de nous tous.
Eteni obison sotoyebi.
Ne nous lassons pas de faire le bien.
Totika kosala bolamu te.
Ne nous lassons pas de faire le bien.
Tolemba kotika koto tolemba kosala bolamu te.
Ne nous lassons pas de faire le bien.
Tolemba kosala bolamu te.
Ne nous lassons pas de faire le
bien. Tolemba kosala bolamu te.
Car nous moissonnerons au temps convenable.
Ouais, te biso toko buka na tango ekoki.
Si nous ne nous relâchons pas.
Soku biso tolembi te.
Dans la suite de ce que nous avons commencé depuis plusieurs semaines,
enseignant
sur les paraboles de Jésus-Christ, dimanche passé, nous avons parlé de la parabole du juge unique ainsi que de la femme persévérante.
Et
là, nous sommes appesantis sur la valeur, l'importance ainsi que la place stratégique qu'occupe une activité dans la marche du chrétien que nous sommes. La place de la prière. Nous avons montré combien Christ dit non seulement qu'il faut prier, mais il faut prier sans se lasser jusqu'à avoir les résultats. Et Christ a fait un parallélisme qui nous a étonnés.
Où
il montre d'un côté un juge inique, mauvais. Qui de un ne craignait pas Dieu et deux n'avait considération pour aucune personne. Mais de l'autre côté, une veuve pauvre qui n'avait rien. Qui avait un droit qu'elle devait récupérer. Et la Bible dit qu'elle venait demander régulièrement afin que justice lui soit rendue. Et là, deux constances nous sont montrées. D'un côté, nous a dit ce juge refusa régulièrement. Mais de l'autre côté, il y a cette femme qui persévéra. Nous avons mentionné deux choses la fois dernière que je m'aimerais répéter en ces jours. Personne ne croira à votre cause mieux que vous-même. Elle savait que sa cause était juste, c'est pourquoi elle ne se lassait pas, elle revenait.
Il y a
des gens qui s'arrêtent aux premières difficultés.
Il
y a des gens qui se lance dès que les premiers obstacles se présentent. Cette femme, elle avait foi en sa cause. Et deuxièmement, elle persévérait. Persévérer, c'est produire les mêmes efforts de manière répétée sans se lasser. Et cette femme était persévérante. Et la Bible nous montre qu'à la fin, sa persévérance a payé. Et j'aimerais dire, la persévérance paye toujours. L'apôtre parlant d'une certaine catégorie de personnes, il dit imiter ceux qui, un, par la foi, deux, par la persévérance, héritaire des promesses.
Abitome kolaba oyo na kondima. Pena kotia elikia.
La foi n'est pas suffisante. À cette foi, il faut ajouter des efforts constants et répétés. J'aime quand la Bible parle d'Abraham, dit il espéra contre toute espérance. La version anglaise dit il continue à croire alors que tout lui disait de ne plus croire. Et ce que j'aime, et Christ le fait ressortir, il montre que le juge unique a fini par céder. Non pas par amour pour cette femme, non pas par compassion. Lui-même dit, je vais lui donner afin qu'elle cesse de m'importuner. Il cède par amour pour lui-même. L'original en grec dit, afin qu'elle ne me casse pas la tête. Je ne cède pas parce que je l'aime, mais je le sais, je cède parce que je m'aime moi-même. Alors Christ fait le parallélisme, dit, si quelqu'un prête à céder par amour pour lui-même. Il dit, et Dieu alors. Et Dieu alors, j'aime comment il dit. Il dit, il ne donnera pas à des élus. Non, Luc ne dit pas à certains élus. Il dit, Dieu ne donnera-t-il pas à ses élus? Des personnes avec lesquelles il a un rapport particulier. Ces élus ne sont pas impersonnels. Sans relation avec quelqu'un. Ses élus. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui premièrement sont en relation avec lui et qui deux posent des actes même des styles de vie qui lui plaisent, qui font des activités auxquelles Dieu prend plaisir. Laissez-moi vous dire, le patriarche l'a dit, la joie de l'Éternel fait notre force. Une autre version dit, quand Dieu est joyeux, il rend fort ce qui cause sa joie. Dans 2 Chroniques chapitre 16 au verset
19,
la Bible renforce la même pensée pour montrer que Dieu s'occupe de ses élus. Anani appelait les voyants. Quand il parle à Asa, roi de Juda, j'aime ce qu'il lui dit. Il dit l'Éternel étend. D'autres versions disent l'Éternel promène ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur sont tout entier à lui. L'Éternel promène son regard sur la terre. Une autre version dit pour venir en aide convenablement à ceux dont le cœur sont tout entier à lui. Dieu cherche à qui je dois apporter quelque chose. Qui est celui qui fait ma joie pour que ma force lui soit donnée. Frères et sœurs, j'aimerais vous les répéter, les prières que vous faites ne s'envolent jamais comme la fumée. L'Apocalypse nous a dit un jour, Dieu demandera que toute musique cesse, qu'il puisse simplement humer la fumée qui monte, qui sont les prières des saints. Et ce que 2 Chroniques 16, 19 nous dit,
2 Chroniques 16, 19 et le Bible,
nous montre deux choses. Il y a une relation entre l'intervention de Dieu et la qualité de vie de ceux pour qui il intervient. J'aimerais le répéter, il y a toujours une relation entre l'intervention de Dieu et la qualité de vie de celui ou de celle pour qui il intervient. Deuxième des choses que ce passage nous enseigne, c'est que l'une des choses qui arrive est la conséquence de l'autre. Il y a d'abord un cœur attaché à Dieu, un cœur au service de Dieu, et puis en réponse, Dieu intervient. Cela nous rappelle une loi, un principe d'une grande importance que Genèse 8, verset 22 nous mentionne. Quand Noé sort de l'arche, Dieu va lui apprendre un principe important qui va traverser les temps. Il parle de 8 choses mises à côté 2 à 2 qui ne cesseront jamais. Tant que la terre subsistera, il parle de 8 choses
et
directement il commence par dire les semailles et la moisson ne cesseront jamais. En hébreu, cela veut dire les temps où l'on sème.
Et
deuxièmement, les temps où l'on moissonne selon qu'on l'a semé ne cesseront jamais. Laissez-moi vous dire, ce principe est un principe vital qu'il nous faut connaître. Dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre le principe de la sémence et de la moisson. Des années plus tard, l'apôtre Paul, sous l'inspiration, reviendra sur la même réalité.
Il dira dans Galates
6, versets 7 à 9. Il commence par dire, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il est moissonnera. Il réétablit le principe. Semence,
kokona,
et moisson.
Mais
il va plus long, verset 8. Et là, il démontre que la qualité de la moisson dépend de la qualité de la semence. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui moissonne de l'esprit moissonnera la vie éternelle. Mais il va plus long, verset 9. Il ajoute deux autres principes importants. Il veut montrer que si nous voulons moissonner, il nous faut être constant dans nos efforts. Il dit, ne nous lassons pas. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Faisons le bien et faisons-le constamment. Et deuxième principe que l'apôtre montre au verset 9. Si la semence se nôtre part, il y a un temps prévu pour la moisson. Que lui l'appelle le temps convenable. Il dit, si nous ne nous lassons pas, nous moissonnerons, mais il dit au temps convenable. Le terme convenable en grec veut dire le temps bon. J'ai lu une autre explication en grec qui dit le temps profitable. Il y a des moments où Dieu dit, si je vous donne, ça ne va pas vous profiter. Je préfère vous le donner à un moment où vous allez en retirer quelque chose. Seigneur, donne-moi, mais donne-moi au temps convenable. Donne-moi quand j'en ai réellement besoin. Et c'est lui qui sait les quand j'en ai réellement besoin. Une autre version dit, au temps de la vraie satisfaction. Et par rapport à la semence, il y a pratiquement une année et demie, même légèrement plus. En ce lieu, nous avons suivi un merveilleux message que j'ai réécouté une bonne partie encore vendredi. Le 15 mars 2009 exactement. Le pasteur Atoms a enseigné sur la semence. Quel message, quel
profondeur.
Et il a fait mentionner certains principes que j'aimerais rappeler avant d'aller plus loin. Il en a mentionné plusieurs, j'ai retiré 6. La première, c'est que la moisson est toujours plus grande que la semence. Les fruits de la moisson sont en plus grand nombre que le petit grain que l'on a sémé. C'est que celui qui sème investit pour lui-même, car il investit pour la multiplication. Deuxième des choses. Il avait dit que la semence est toujours secrète et discrète. Mais la moisson est toujours publique et visible. La semence peut être cachée par la terre, mais quand la pluie tombe, ça germe, ce qui était caché ressort. Troisième principe qu'il avait mentionné que je m'aurais répété. C'est que la semaille se fait souvent avec douleur et difficulté. Mais la moisson se fait avec joie. Le psalmiste dira dans le psaume
126.
Au verset 5 et 6.
Ceux
qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse.
Ceux
qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. J'aimerais vous dire, les larmes du moment de la semaille préparent la joie de la moisson. Et le psalmiste va plus loin. Il dit celui qui porte sa gerbe en pleurant, c'est celui qui porte la semence en pleurant. Reviendra avec allégresse quand il portera les gerbes. Quatrième principe que l'homme de Dieu avait mentionné, que je mentionne de nouveau. On n'arrête jamais de s'aimer si l'on veut récolter. Car la récolte d'aujourd'hui vient de la semence d'hier. Et celui qui s'arrête de s'aimer appauvrit son futur. Si vous voulez garder une moisson constante, gardez aussi la semaille de manière constante. Cinquième chose, c'est que semaille et moisson sont toujours soumis à l'épreuve du temps. Il y a toujours un temps qui s'écoule entre la semaille et la moisson. Ce temps peut être court, moyennement long, quelquefois très long. Il y a des choses tu sèmes aujourd'hui, dans trois mois tu as les fruits. Il y a d'autres, ça t'exige des années. Mais quel que soit le temps que ça va prendre, j'attendrai ma moisson. Dans Psaume 73, au verset 13, quelqu'un qui avait semé l'intégrité, la droiture, la dévotion vis-à-vis de Dieu, il est presque découragé. Il s'écrie vers Jéhovah. C'est donc en vain que je purifiais mon cœur. C'est donc en vain. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, on ne travaille jamais pour Dieu en vain. Il y a un temps vous aurez la semence, vous sèmez, mais il y a un temps vous allez moissonner. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que vous allez moissonner. Je sais que vous allez moissonner. Et quand la moisson va venir, elle vous fera oublier vos mains qui avaient rougi. Elle vous fera oublier vos mains qui avaient durci. Je suis venu déclarer à quelqu'un que le temps de la moisson pour toi arrive. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, tu vas rentrer dans une saison, tu vas commencer à moissonner les choses que tu as semées. Et quand tu commenceras à moissonner, sème encore pour le futur. Car si la semence d'hier a créé la moisson d'aujourd'hui, la semence d'aujourd'hui créera la moisson de demain. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te décourage pas. J'aimerais dire à quelqu'un, si c'est trop dur d'attendre, pleure mais ne lâche pas. J'aimerais dire à quelqu'un, si c'est tellement dur, tu as besoin de la compagnie pour t'aider à pleurer, appelle papa Olivier Cup et je viendrai pleurer avec toi. Ne lâche pas. Quand les jours de la moisson approchent, Dieu n'exaucera-t-il pas ses élus?
Qui crie
nuit et jour? Dieu ne donnera-t-il pas au moment convenable à ses élus? Sixième principe, c'est que quelquefois, la semence peut être l'action d'un homme. Et la moisson, c'est d'autres qui la font. Ah, moi je prie que tout ce que je sème, je moissonne. Mais si Dieu décide que moi je sème et que d'autres moissonnent, gloire à lui. Un homme a semé les rêves dans le cœur de ceux de sa génération. Il s'appelait Martin Luther King. Il a dit, je fais un rêve, voyez-vous d'où la veille de sa mort. Il a prêché, il a dit, je suis monté sur la montagne. J'ai vu la terre promise. Peut-être que je n'y entrerai pas. Mais je l'ai vu.
Il
y a quelques mois, un mois de novembre, un de ceux qui étaient là le jour où on a semé les rêves dans le cœur, il a vu le rêve s'accomplir. Jesse Jackson, lui, il
semait.
D'autres ont semé, mais d'autres ont moissonné. Dans Jean chapitre 4, verset 37 à
38,
Christ rappellera un célèbre proverbe de son époque.
Car
en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème. Autre est celui qui moissonne. Dans 25 ans, dans 30 ans, quelqu'un sera pasteur du centre missionnaire Philadelphie. Dans une grande salle de 50 000 places. Tout est climatisé. Il ne connaîtra pas que nous, on a connu la pluie. On a connu les matopes comme les amis de Bukavu et de
Kadutu.
Nous, on a semé. Et lui viendra
moissonner.
Quand on lui dira, un jour, le pasteur Atoms avait commencé le message d'un séminaire et la pluie a décidé qu'on arrête. Il y aura difficile à s'imaginer cela. Car qui sait, il sera dans une église avec
mon
où l'on part du premier au deuxième étage en ascenseur. Il oubliera que d'autres ont semé et d'autres ont moissonné. C'est pour cela que j'aime ce que mon pasteur disait. Il disait ces deux belles phrases. Il dit, si vous souffrez sans résultat, soyez calme, car après vous, il y aura des gens qui auront des résultats sans souffrir. Seigneur, si tu décides que je souffre pour les autres, je souffrirai. Mais il a souvent ajouté cette deuxième phrase. Si vous avez des résultats sans souffrir, soyez humble. Car sûrement avant vous, il y a eu des gens qui ont souffert sans résultat. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour où tu nous amènes.
Merci pour la si consommé ma vie.
Et Jésus-Christ ajoute au verset 38, c'est glorieux.
Il dit,
je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas semé. D'autres ont travaillé. Et vous, vous êtes entrés dans leur travail. Ah, Seigneur, aide-moi à travailler. Travailler. Même si ce sont d'autres qui vont moissonner, je veux travailler. Je veux donner le meilleur de moi-même. Je veux que dans quelques années, quand je partirai, que les générations qui vont venir soient fières de moi, en regardant ma tombe qui disent, ici repose un homme qui a payé un grand prix. Ici repose un homme qui a donné le meilleur de lui-même. Pour que nous soyons ce que nous sommes. Et 2 Samuel 6.
2 Samuel 6.
Que nous avons lu.
De
8 à 12.
Banana 8 qui n'en a 12.
On part d'un instant particulier. Quelqu'un a l'impression de subir une chose. Une chose qui lui arrive comme une génération spontanée. Une chose apparemment inattendue de lui. Que les autres ne comprennent pas aussi. Comment cette chose arrive?
Obed-Edom.
La Bible nous montre. Et subitement l'arche est
déposée
en sa maison. Et durant ces 3 mois, il vit les rêves de sa vie. La Bible dit l'Éternel le bénit. Le terme béni en hébreu veut dire je donna l'équipement pour la réussite. Il y a des moments où Dieu décide. Il dit vous donne un manteau et partout où vous passez, rien ne vous arrête. Quand ce manteau arrive, vous savez comparer avant et vous savez comparer après. Vous faites peu d'efforts, vous avez beaucoup. Vous vivez des choses, même vous avez conscience. À une certaine époque, je priais beaucoup, j'avais rien. Mais aujourd'hui, je prie presque pas, mais j'ai beaucoup. Vous rendez compte que c'est sans
effort.
C'est pourquoi le message de ces jours, c'est la saison d'Obed-Edom.
Dieu m'a déclaré à
quelqu'un, la saison d'Obed-Edom va vivre, va être vécue par quelqu'un. Dieu m'a dit de dire la même chose. De la même manière, lui, il a vécu 3 mois. J'aimerais le déclarer aujourd'hui. Comptez à partir de ce jour. Il y a une saison de 3 mois qui commence. Où nous vivrons des choses. Où nous expérimenterons des choses. Où nous constaterons que des choses arrivent. Si tu le crois et tu es d'accord avec moi, dis
Amen.
Si tu es d'accord avec moi, dis je le vivrai. Si tu es d'accord avec moi, dis rien ne m'arrêtera.
Obed-Edom,
il vit des choses, il expérimente des choses. Ce que j'aime, c'est tous les contextes. On nous parle de 3 choses. Premièrement, de ce qu'Obed-Edom a connu. Deuxièmement, de l'étendue de cette chose. Et troisièmement, du pourquoi. La Bible dit au verset 11, Obed-Edom fut béni. Un manteau, un équipement qui crée la réussite lui a été donné.
Wow.
Elle est tellement forte cette bénédiction que le verset 12 dit on en parle même au roi. Si c'est un petit vélo, on n'en parlerait pas au roi. Si c'est un petit rien, ça n'arriverait pas au palais royal. C'est tellement grand, fort, costaud, que les nouvelles arrivent jusqu'à chez les rois. Seigneur, Obed-Edom, c'est terrible. Ce n'est plus la même personne que tu connaissais avant. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Je suis venu dire à quelqu'un que la saison d'Obed-Edom sera ta saison. La saison d'Obed-Edom sera ta saison. Parce que Dieu a décidé de le faire dans le ministère, dans les affaires, dans ta famille, dans tes projets. Il y a quelqu'un dans les jours qui viennent. À chaque mission de service, ton nom sera là. Les gens commenceront à dire, mais pourquoi seulement lui? Parce que Dieu a décidé. Pourquoi il a décidé, je ne sais pas. La Bible dit, Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Il le fait quand il veut. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, dans tes affaires, tu as obtenu un marché, alors que tu seras en train de rendre grâce pour ce marché. Le téléphone va sonner pour un deuxième marché. Et quand tu seras en train de dire merci, vouloir donner une action de grâce pour le deuxième marché, il y aura un troisième. Ça me rappelle ce que quelqu'un me disait un jour. Il dit, pasteur, j'ai l'impression que si les bénédictions viennent par un boulevard et qu'il y a un chemin perpendiculaire, j'ai l'impression que nous on est derrière. Et quand les bénédictions viennent, il y a un policier de roulage spirituel qui dit aux bénédictions, allez là-bas.
Là-bas.
D'autres veulent aller là où nous sommes. Ils disent, pour le moment c'est là. Viendra un moment, il fera ça. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as demandé aux anges là-bas. Là-bas. Là-bas.
Amen.
Là-bas.
Amen.
Pourquoi on ne sait pas? Là-bas.
Amen.
Maintenant, c'est là-bas.
Amen.
Pour le moment, c'est là-bas.
Amen.
Pour ces 3 mois, c'est là-bas.
Amen.
Quand cette saison arrive, elle sécurise des années. Vous avez en 3 mois ce que 20 ans ne vous a pas donné. Vous avez en 3 mois ce qui va sécuriser des années.
Et
avec moi, je veux vivre cela. Dieu bénit
Obed-Edom.
Deuxième chose qui est dite. Non seulement lui, mais toute sa maison. J'aimerais vous dire, il y a des bénédictions contagieuses. Des bénédictions contagieuses qui touchent non seulement celui qui s'est consacré à Dieu,
mais
qui touchent tous ceux qui de loin ou de près sont connectés à lui.
Je
vais dire à un papa, il y a un fils qui n'a jamais fait la distinction, il en fera cette année.
Amen.
À cause de ta visitation.
Amen.
Alléluia. Il arrive des fois quelqu'un fait des choses
et
tous ceux qui sont attachés à lui vivent cela. Le terme qui dit il fut béni et toute sa maison au verset 11. Le terme sa maison veut dire deux choses. Un, ceux qui partagent avec le même toit.
Mais
deux, tous ceux qui de loin ou de près sont attachés à lui.
C'est-à-dire,
ils sont même pas chez lui. J'aime quand Genèse 7.1 nous dit, Dieu dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Et pourtant certains de ses enfants étaient déjà mariés. Mais quand Dieu a agréé Noé, il dit par contagion ça va toucher les autres. Je suis venu les déclarer, des gens qui sont attachés à toi vivront des choses. Je n'ai assez de prédicateurs qui mettent trop l'emphase sur la malédiction. La malédiction n'est contagieuse que jusqu'à la quatrième génération. Dans ma Bible à moi, je ne sais pas quelle Bible toi tu as, la mienne dit, la bénédiction va jusqu'à la millième génération. La malédiction est moins contagieuse. La bénédiction est bien plus. Il y aura des générations, des gens qui ne vont rien faire, mais qui vont subir la bénédiction. Qui vont subir la bénédiction. Qui vont subir la bénédiction. J'aime ce que la Bible dit. Un homme dans un coin reculé, sans espoir, et alors que David accède à la royauté, il dit, cherchez-moi quelqu'un de la maison de Saül. Que je lui fasse du bien. Mais il ajoute à cause de
Jonathan.
Il y aura des Mephibosheths qui n'auront rien fait.
Mais
qui subiront des bénédictions. Ils vont s'asseoir à la table du roi. À cause de
Jonathan.
J'aimerais que tu déclares à cause de moi. Ma famille ne sera plus la même. À cause de moi, même mon père, mon grand-père, mes oncles vivront des choses. Si tu es d'accord avec moi, dis
Amen.
Cela ne s'arrête pas là. Dieu est fâché contre
Salomon
qui s'est conduit mal. Dieu lève l'épée. Il dit, je vais arracher le royaume, mais je n'arracherai pas tout, non pas à cause de toi, mais à cause de
David.
Et il va plus loin. Je ne le ferai même pas sous ton règne.
Et
il ajoute encore, à cause de David.
Pour David.
J'ai une maladie contagieuse. Plus contagieuse qu'Ebola. J'ai une maladie contagieuse appelée bénédiction.
Dieu
m'a donné un manteau. Et Dieu permet que tout ce que je touche est contaminé. Je contamine Papa Henri.
Amen.
Je contamine Maman Cécile.
Amen.
Je contamine Yamarisha. Rémi Djunga, contaminé.
J'ai
donné aux États-Unis, contaminé. Docteur Christophe, contaminé.
Fais-tu
proclamer, déclarer la contagion chez quelqu'un. Déclare-la un moment.
Ah! Nicolas Pamboabe. Iva Pamboabe. Eva Pamboabe. Ridia Pamboabe. Crisia Pamboabe. Sarah Pamboabe. David Pamboabe. Allah Pamboabe. Christian Pamboabe.
Amen.
Christian Pamboabe.
Amen.
Comme on a Yesu. Koria Sakaria Bobobobosi.
Amen. Obed-Edom et sa maison vivent 3 mois extraordinaires. 3 mois de rêves.
Tout
ce qui était en stationnement se met en motion. Les questions restées longtemps sans réponse trouvent réponse subitement. Les montagnes orgueilleuses et hautaines libèrent la place. Tout ce qui n'était pas arrive. Obed-Edom et sa famille n'en reviennent pas. Ils pensent vivre en rêve. Les jours de nuages sombres et d'inquiétude et de questionnement deviennent subitement un passé lointain. Les ténèbres ont disparu. Les larmes ont cessé. Eux qui n'avaient rien ou à peine, subitement ils ont tout. Et même plus que ceux dont ils ont besoin. J'aimerais dire à quelqu'un, la saison de Obed-Edom commence. Eux qui n'étaient rien deviennent tout. Ils vivent une saison exceptionnelle. Un temps de rêve. La bénédiction lorsqu'elle arrive. Et dont Dieu est l'auteur. Elle est toujours une évidence. Elle est toujours une évidence. Vous le savez. Et les autres le savent. Dans le psaume 126. Au verset 2 à 3. Il a parlé de quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. Deux choses se sont passées. La Bible dit, on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Ils ont vu, ils ont constaté, de grandes choses sont en train de se passer. J'aimerais dire à quelqu'un, la saison de qui mon amène soit arrivée.
Amen.
Mes amis de l'Équateur disent l'automa. On va toucher ça, on va palper ça. C'est pas lui qui leur demande. La Bible dit, ils disent, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Mais j'aime le verset 3. Au-delà des autres. Eux-mêmes disent, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et ils ajoutent, nous sommes dans la joie. Ils vivent des choses. L'étendue, c'est la famille.
Et
le pourquoi nous est donné. Pourquoi Obed-Edom vit ces choses? Parce qu'il a accueilli l'arche. Parce qu'il a accepté et pris soin de l'arche d'alliance. Symbole de la présence de Dieu. Dieu me dit, quand je priais hier soir, il dit plusieurs ont l'accélérateur dans leur véhicule. Si vous voulez voir la saison d'Obed-Edom arriver, aimez la présence de Dieu. Soyez un adorateur individuel. Soyez un loueur individuel. J'aimerais que quelques fois vous me voyez en train d'adorer seul.
Je
danse des danses qui feront rire les puristes. Mais je danse devant Dieu. Des fois c'est un peu lent. Des fois c'est un peu saccadé. Mais je le fais devant mon Dieu. Quelquefois sa présence est si glorieuse. Je me couche par terre. Un jour ma fille, la dernière, alors que j'étais en train d'adorer pleinement, je ne faisais que boucher la tête. Elle est venue dire, papa, est-ce que tout va bien? Je dis, quand tu me vois comme ça, c'est que ça va vraiment, vraiment bien. Parce que là, j'étais en intimité. Et je lui ai dit, c'est quand papa fait des choses comme ça, que le Père qui est au ciel lui donne des choses qui font votre joie. Aide-moi à voir quelqu'un qui aime ta présence. Quelqu'un qui accepte que l'arche rentre dans sa maison. Quelqu'un qui aime la présence de Dieu. Dès que la présence de Dieu rentre chez
Obed-Edom,
tout a changé. Je veux dire, les jours qui viennent, la différence viendra de la présence de Dieu. Ça viendra de l'arche. As-tu accepté que l'arche rentre dans ta maison? As-tu accepté que l'arche habite toi?
Que
quelqu'un dise avec moi, je veux l'arche. Mais comment ce coffret est-il arrivé chez lui? D'abord, il avait été pris.
tango Elia
quand les gens l'ont emmené au combat comme un fétiche
tango ba memaki yango na etumba lokola
et que ça pas marché, ça a été pris
tango ba botola ki bango
ça a commencé à aller chez les Philistins, ça a donné
les Moabites,
ça a commencé à circuler par-ci par-là, tout le monde voulait s'en débarrasser jusqu'à ce que ça vienne rester à Kirjat Jarim.
Kirjat Jarim
et même ça a eu l'accès de la royauté.
Il
oublie qu'il y a une chose importante qui devait être au milieu. Il ne fait rien.
Mais
un homme que Dieu a préparé. Il observait. Il voyait les manquements des autres. J'ai envie de dire à quelqu'un, alors que les autres sont en train de gouverner, alors que les autres sont devant, je te laisse être derrière. Pour voir ce qu'eux ne font pas. Ils auraient dû faire. Afin que quand tu seras arrivé, que tu fasses ce qu'ils n'ont pas pu faire. Et tu auras le résultat qu'ils auront souhaité avoir. Et qu'ils n'ont pas eu. Dès qu'il accède à la royauté, David dit, l'arche doit revenir. L'arche doit revenir. Il a le désir de ramener l'arche dans la sainte présence de Dieu. La Bible nous montre qu'il y avait une grande joie. Une grande joie.
Le
jour où l'arche revenait. De Samuel chapitre 6. Verset 5. Nous dit toute la maison d'Israël jouait devant l'Éternel, toutes sortes d'instruments. Mais subitement, au verset 6 à
7,
un incident arrive. Alors que l'arche voulait tomber, David et le peuple ont perdu les notions sur comment gérer l'arche.
Ouza
touche l'arche.
Il avait
dit, l'Éternel fut irrité. Et l'Éternel le frappa d'un châtiment. J'aimerais vous dire, le Dieu bon, c'est aussi le Dieu juste. La Bible dit qu'il est lent à la colère. Mais
ce
n'est pas qu'il ne se fâche pas. Il se fâche, mais doucement. Un colérique lent. Vous savez, il y a des moments où Dieu décide de rétablir son autorité au milieu de son peuple. J'ai beaucoup aimé un prédicateur quand j'étais jeune dans la foi. Parlant de la mort d'Ananias et Saphira. Il dit, le Saint-Esprit lui-même les a assassinés. Le Dieu bon. Vous savez, quand Dieu veut rétablir la crainte de son nom, il est prêt à tout. Quand Ananias et Saphira sont tombés, la Bible, la crainte s'empara de chacun d'eux. La joie de David laisse la place au tremblement. Les réjouissances des instruments s'arrêtent quand ils ont vu Ouza tomber.
L'Abbé
dit deux choses concernant la réaction de David.
Le
verset 9 dit, David eut peur de l'Éternel dans ces jours-là. Il est bon que de temps en temps, même loin de l'Éternel, puisse avoir peur de l'Éternel. Le verset 10. Celui qui cherchait coûte que coûte avoir l'arche. L'avait dit, il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David.
Et
la fin du verset
10.
Il a fait conduire dans la maison d'Obed-Edom. La version en hébreu Shura qui dit, il a dévia.
Shura qui oyabe moebelo elobiete a sali lokola a lekisia mokuna.
Laissez-moi vous dire.
Tika na lobe labino.
Mon Dieu.
Zambe nanga.
Qui s'appelle le maître des temps et des circonstances. Il est capable de créer n'importe quel prétexte pour te visiter. Il peut utiliser du négatif apparent chez quelqu'un pour produire du positif chez toi. Les commentateurs disent qu'on a laissé l'arche chez Obed-Edom parce que c'était plus proche de l'endroit où il y a eu l'accident. Vous auriez pu toucher ça avant. Vous auriez pu vouloir trébucher un kilomètre après. Seigneur, trouve un prétexte, me visite-les. Seigneur,
amen.
Trouve un prétexte, mais visite-les. Qui était Obed-Edom?
Obed-Edom,
tu vois subitement. Je préfère le dire en lingala. David a eu sundolé la arche. Lui, il a peur. Il voit combien ça a provoqué les
moroïdes
là. Et là, ça vient de provoquer un problème actuel. Il dit, petit, comment
t'es
le roi? J'aimerais te dire, quand on te cédera la mort, parce que c'est Dieu, il va la transformer en vie. Quand on te donnera cette entreprise morte, à cause de Dieu en toi, tu vas la ressusciter. Et il y aura des jaloux qui voudront la récupérer. Ce que j'aime, c'est que les mêmes qui avaient dévié l'âge, 3 mois après, il attendait qu'on lui donne l'invitation.
Combien
de dons est mort?
Ok, combien de dons est
On est venu lui dire,
Babi,
Raïs,
Apamboama.
Combien de dons sont morts?
Somme.
Récupérez Borwana.
Alléluia.
Et Bomaka, Kasepambola rappelle.
Amen.
Dis avec moi Ebomaka.
Ebomaka.
Et ajoute aussi Epambolaka.
Epambolaka pe. Hey.
Pourquoi Obed-Edom?
Pona nini Obed-Edom?
Pourquoi seulement lui?
Pona nini kaka ye?
D'abord cet homme s'appelait Obed-Edom.
Ya yambo komonezaki Obed-Edom.
Son nom Obed signifie serviteur tout court.
Obed elingi ko ba mosali.
Mais dans la racine en hébreu, cela va plus loin. Obed signifie serviteur qui honore Dieu de la bonne manière. Serviteur qui honore Dieu de la manière qui plaît à Dieu. Certains pensent que même que c'était un surnom. Quand on dit il était des gâtes, il n'était pas philistin. Les Gath dont il est question là, c'est Gath Rimmon. Qui était une cité redonnée aux Danites.
Josué 21-24
le montre. Et c'était une cité donnée pour les Lévites.
Et
une cité où les hommes consacrés à Dieu étaient placés. Et c'était une cité où il y avait des hommes qui passaient leur temps à enseigner le peuple, mais à s'occuper du service à côté des sacrificateurs habités. Plusieurs ont l'impression que ce qui arrive à Obed-Edom, c'est un accident. Mais ce qu'ils savent pas, ce qui arrive à Obed-Edom, c'est une moisson. Et Dieu, n'exaucera-t-il pas ces élus qui crient à lui nuit et jour? Et Dieu, n'exaucera-t-il pas ces élus qui crient à lui nuit et jour? Je parlerai tout à l'heure de 3 choses que les commentateurs et les étudiants disent concernant Obed-Edom. Quand Dieu veut répondre à un élu au temps convenable, dites avec moi au temps convenable. Il permettra qu'un accident ait lieu devant chez toi. Parce qu'il estime que c'est le temps convenable pour changer ta condition. Et Obed-Edom qui a prié longtemps, qui a espéré longtemps, il ne voit rien. J'aimerais dire, celui qui ne voit rien aujourd'hui verra quelque chose.
Amen.
Les commentateurs et la tradition disent 3 activités étaient attachées à Obed-Edom. Premièrement, c'était un étudiant de la parole de Dieu. Mais en même temps, un enseignant de la parole de Dieu. Il est dit qu'il étudiait d'abord pour lui-même.
Mais
parce qu'il devait aussi l'enseigner aux autres. Les passages du psaume 119.
Verset 18,
verset
24,
verset 97 ou
97,
et le verset 62,
62
peuvent symboliser le style de vie qu'Obed-Edom menait.
Le verset
18, le psalmiste dit,
verset 18, mon Dieu a
Zakoloba. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi.
Fungola misunanga pwetena mona bolamu ya mobeko na yo.
Verset 24.
Yam tukumi bayana mine.
Tes préceptes font mes délices.
Malaki sinale to sala ki toko na ngai.
Ce sont mes conseillers.
Yangone zakola ki
sanga. Verset 97.
Donase.
Combien j'aime ta loi.
Le lenge nini na lingaka iloba
mobeko na yo. Objet de ma méditation.
Pe yangwe sala ka tena manyola ngo mokona mokolo.
Verset 162.
Verset 62.
Je me réjouis de ta parole.
Nazako sepela na liloba na yo.
Celui qui trouve un grand butin.
Lokola oya zwibo zwi monene.
Papa Tom, c'est les heures que tu passes à prier.
Papa Tom, c'est tango zo lexanga go sambela.
Détaché de ta femme et de ta fille qui aurait voulu t'avoir enfermé au bureau pour préparer un message.
Ce n'est jamais de temps perdu. Eza tango ebungisa
mi. Et un jour Dieu décide, je vais payer.
Eza tango nzamba ko loba na ko futa.
Il y a quelque temps, j'étais en train de prier.
Eza tango mosusu eleki na zeko bondela.
Dieu m'a dit, Roland, la saison des rappels commence. Et les Congolais sont mieux placés pour connaître les rappels, c'est quoi? 58 mois impayés. Et puis un beau jour, tout ce que tu n'as pas eu en 58 mois, on vient te les donner en une fois. J'aimerais dire aux gens, cet intercesseur qui se lève la nuit, qui prie pour Philadelphie, ce n'est jamais perdu.
C'est
membre du protocole qui nous aide à nous asseoir.
C'est
membre de la sécurité qui garde les véhicules, qui même sous la pluie vérifie qu'on ne prenne pas un rétroviseur. C'est moniteurs de l'école du dimanche qui réfléchissent, qu'est-ce que je vais faire pour les enfants? Ma Bible à moi dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier les services que nous avons rendus et que nous continuons à rendre aux saints.
Obed-Edom,
étudiant de la parole de Dieu. La deuxième chose que le commentateur dit, c'était un chantre, un adorateur. Il aimait Dieu
et
il aimait sa présence. La tradition dit qu'il aimait chanter pour Dieu. On a trouvé un bout de papier où il était écrit, dans la maison d'Obed-Edom, chanter pour
Jéhovah.
Sûrement au ciel que Dieu demandait aux anges de s'arrêter. Tellement il le faisait bien. Son chant pour Dieu était connu. Ah, laissez-moi vous dire. Les gens qui disent, mais bayembe la toujours nzambe to mona kate. J'aimerais leur dire, le temps de la visitation arrive. Il aimait sa présence. J'ai lu un commentaire qui disait,
Obed-Edom
de sa maison célébrait souvent un Dieu fort, un Dieu puissant. Mais les gens venaient leur rappeler que le Dieu fort et puissant, nous le voyons que dans vos chants. Je suis venu dire à quelqu'un, ce que tu chantais deviendra réalité. Tu parlais d'un Dieu fort, d'un Dieu puissant. Il va se manifester. Dieu m'a dit de déclarer à quelqu'un, Dieu se manifestera selon que tu les chantes. Le Dieu que tu célèbres, c'est le Dieu qui va se manifester. La célébration d'Obed, c'était la sémence. La célébration d'Obed, c'était la sémence. Il ne savait pas quand la moisson allait arriver. Un jour, la moisson est arrivée. Et vous savez, quand la moisson arrive, elle vous encourage à s'aimer encore. Quand nous lisons tous les récits, quand Dieu a visité
Obed-Edom,
et quand David est venu récupérer l'arche, Obed-Edom a déménagé. Il a dit, si on me l'a arraché, je vais être là où ça se trouve. Il a pris 62 personnes qui de loin ou de près était attaché à sa maison. L'un devient chantre, là où l'arche est gardée. L'autre devient portier, parce qu'il connaît les secrets de l'arche. Quand on a chanté avant, ça a produit. On aimerait être encore là où ça se trouve. J'aimerais dire à quelqu'un, si la semence d'hier produit la moisson, dans la moisson d'aujourd'hui, tu retires une semence, sème encore.
Si
quelqu'un est d'accord avec moi, qui dise amen.
Amen.
Et avant de clore, j'aimerais mentionner la troisième chose qui est attachée à
Obed-Edom.
Les gens disent que c'était un homme de prière. Il est dit quand il priait, tout Gat Rimon le savait. Tout Gat Rimon était témoin. Un jour, subitement, accidentellement, certains commentateurs disent même ils étaient en train de chanter. Quand ils ont entendu le bruit du roi qui venait, le roi a dit on arche là où l'on chante. On mènera l'arche là où l'on chante. Un aîné dans la foi m'a dit, le succès, c'est quand la préparation rencontre l'occasion. Et pour tous ceux qui se préparent, Dieu finit par donner une occasion. Dieu ne donne l'occasion qu'à celui qui est préparé. Obed-Edom était tellement préparé. Il chantait pour Dieu. Il a vu le roi avec ses sbires arriver. Lui ont laissé ses coffrets. La tradition dit il a placé au bon endroit. J'ai lu un commentaire où il a dit les quatre premiers nuits, Obed et Don et sa famille n'ont pas dormi. Ils ont chanté plus qu'avant. Pour les privilèges que Dieu a voulu venir habiter dans leur maison. Ils se sont dit, il y a plusieurs maisons ici, pourquoi seulement chez nous? Et les commentateurs disent que c'est au cinquième jour. J'aimerais inviter Philadelphie à se lever. J'aimerais durant 10 minutes que nous puissions oublier les temps. J'aimerais inviter le pasteur Atoms.
Pasteur Atoms.
Je prie pour un moment. Si tu veux te mettre à genoux, tu le fais. Tu veux te coucher, fais-le. Il aimait Dieu. Il aimait sa présence. Il chantait un Dieu fort qui n'avait pas encore manifesté sa face dans sa vie. Il proclamait un Dieu puissant avant qu'il ne voie sa puissance dans sa vie. Quel est le Dieu que tu vas célébrer en ces jours? J'aimerais que tu aies en tête ce début d'après-midi. C'est l'inauguration d'une saison. J'aimerais que tu aies en tête que c'est l'inauguration d'une saison. Christ a dit, et Dieu n'exaucera-t-il pas ses élus? Ne leur donnera-t-il pas des choses profitables?
Un
bon moment. À un moment dans la vie d'Obed-Edom, il y avait des efforts sans résultat. Il y avait de l'investissement apparemment sans retour.
Et
les jours où il s'y attendait le moins, tout à coup. Ah, je m'imagine sûrement au soir de sa vie.
Obededon
a dû laisser ses témoignages. Chantez toujours pour Dieu.
Adorez
toujours Dieu.
Exaltez
toujours Jéhovah. Ça produit. Car ça produit.
Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.